Bonjour Gilles.
Bonjour Rainer.
Je voudrais commencer avec vous, cher ami, une série d'entretiens sur nos manuels de français. Il y a quelques jours, nous avons déjà enregistré la réponse à la question « Pourquoi notre manuel s'appelle-t-il Découverte ?»
Oui, je me souviens.
Aujourd'hui, je me suis proposé un tout autre sujet. Vous êtes rédacteur et vous rédigez en outre les textes et les exercices du nouveau manuel Découverte. Je sais, d'après mes propres expériences en tant que professeur, que les élèves n'aiment pas trop les exercices, des manuels, surtout en français. Quelles qu'en soient les raisons, je voudrais savoir quelle importance accordez-vous à ces exercices.
Bon, je crois qu'on ne peut pas dire, on peut pas formuler cela ainsi. On ne peut pas dire que les élèves n'aiment pas les exercices. Ils n'aiment pas les exercices rébarbatifs, ennuyeux. Ils n'aiment pas, par exemple, les exercices à trous. Et je crois que nous nous efforçons, dans l'équipe de découverte, de proposer des exercices créatifs et non pas des exercices à trous, ennuyeux. Parce que il faut que l'élève voie un but dans un exercice. Il ne s'agit pas de faire des exercices rébarbatifs, de conjuguer des verbes, par exemple, sans but. Il faut que l'élève comprenne que ça va lui apporter quelque chose dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Par exemple, je connais des tas d'élèves qui font volontiers et volontairement, se préparent, par exemple, aux exercices du DELF.
Oui.
Hein? Et dans notre manuel scolaire découverte, nous avons une quantité énorme d'exercices qui préparent au DELF. Donc, le DELF, ce sont aussi des exercices. Il s'agit aussi de passer un examen. Il y a des exercices de compréhension orale, des exercices de compréhension écrite, mais aussi des exercices de production orale et de production écrite. Et l'élève le fait volontiers parce qu'il sait que, à l'issue de ces exercices, il pourra maîtriser certaines compétences et il pourra aussi prouver qu'il sait se débrouiller.
Très bien,
Voilà.
merci. Vous vous rappelez encore à nos élèves l'abréviation de DELF?
DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. C'est très important parce que grâce à ces exercices qui préparent au DELF dans Découverte, l'élève aura un diplôme avec lequel qu'il pourra mettre dans son portfolio, par exemple, et avec lequel il pourra prouver, quand il posera sa candidature, qu'il maîtrise un certain niveau de français.
Alors, pour préparer cette interview, j'ai noté quelques questions,
Oui.
c'est-à-dire pour bien travailler notre sujet.
Oui.
Est-ce que les auteurs de nos manuels vous envoient les exercices tout prêts?
Oui, c'est-à-dire que les auteurs nous envoient d'abord un choix de texte et un choix d'exercice. Mais attention, ces exercices, nous, notre travail en tant que rédacteur, c'est de vérifier que d'abord tout ça, les sujets, la structure grammaticale, la progression, tout cela correspond bien aux directives ministérielles des 16 Länder en Allemagne, plus de l'Autriche
Mais c'est
d'ailleurs.
plus qu'un puzzle.
Oui, c'est un peu ça. Alors, il faut vérifier que tout ça correspond. Ensuite, il faut mettre tout ça sous un chapeau. C'est-à-dire, il faut que chaque exercice, chaque texte convienne parfaitement à ce que veulent avoir les différents ministères en
Oui,
Allemagne.
oui.
Alors, donc, c'est beaucoup plus compliqué
Oui,
que de faire un manuel
oui.
scolaire en France. Et ensuite, nous, notre travail, c'est de rédiger les textes. Alors, en général, les auteurs sont des professeurs de français qui travaillent en Allemagne, qui enseignent en Allemagne, mais ce ne sont pas forcément des natifs, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs à corriger, et la longueur aussi. Nous nous occupons aussi de voir si la longueur est faisable, si les exercices ne sont pas ennuyeux. Justement, ce que je vous disais avant, c'est que souvent les auteurs, pour aller plus vite, nous proposent des exercices à trous. Hein? Nous, on change la forme de l'exercice souvent, hein? Pour la
Oui, les
rendre,
rédacteurs,
les
la
rédacteurs, voilà,
rédaction, oui.
pour rendre ça beaucoup plus attrayant, hein? Pour rendre ça plus créatif, c'est notre travail aussi. Hein? Donc, premièrement, vérifier que tout cela correspond aux directives ministérielles des Länder en Allemagne et en Autriche. Secondo, rendre tout ça beaucoup plus attrayant pour l'élève, pour qu'il n'ait pas l'impression de faire des exercices, mais
Oui.
de s'amuser avec le français, en fait, avec la langue française.
Vous avez parlé de la grammaire, les structures.
Oui.
Vous avez utilisé aussi ce terme de progression.
Oui.
Pour un élève, qu'est-ce que c'est la progression?
La progression, c'est quelque chose qui est établi au début du travail de production d'un livre, c'est-à-dire qu'on se réunit avec les auteurs et nous réfléchissons sur les compétences, les thèmes grammaticaux que l'élève doit maîtriser après un an de français. Et d'après cela, une fois qu'on a la somme totale et les sujets, on essaye de répartir les thèmes grammaticaux et les sujets de manière à ce que tout cela aille ensemble, de manière à ce que ça soit homogène. Hein, il y a des, je ne sais pas, si on doit parler du passé, eh bien il faut que ça aille avec des textes qui parlent du passé. Si on parle du futur, eh bien, il faut avoir des sujets qui parlent de science-fiction. Enfin,
bon, et les mots qui vont avec.
Et les mots qui vont avec. Il faut aussi, ça c'est notre troisième fonction, de réduire la production des auteurs à un nombre de vocabulaire nouveau qui soit faisable pour une leçon, pour un élève.
Et parfois un travail difficile avec les auteurs, des accords et des désaccords, des discussions,
exactement,
des heures de travail.
Des heures de conférences avec les auteurs, il faut justifier chaque changement, il faut justifier chaque décision, parce que finalement c'est la rédaction qui a le dernier mot, qui prend la décision finale. Hein. Et ça, et quatrièmement, nous, notre travail, c'est aussi un travail d'empaquetage, je dirais, de rendre la leçon attrayante.
Oui, d'accord. Voilà. Si vous parlez de ces différentes conceptions, est-ce que cette conception des exercices a changé dans la nouvelle édition de Découverte?
Oui, bien sûr. Je me souviens, par exemple, alors un point qui a changé énormément, c'est la compréhension orale.
Oui. Hein.
Dans l'ancien Découverte, c'était à l'époque assez nouveau, donc on a peu d'exercices de compréhension orale, ou pas suffisamment. Ça, nous avons fait cette expérience, c'est pour ça que nous l'avons corrigé. Dans le nouveau Découverte, il y a un nombre incroyable d'exercices de compréhension orale, parce qu'on s'est rendu compte que grâce à la compréhension orale, les élèves peuvent plus facilement communiquer. C'est quand même ce qui est le plus difficile dans la langue française, c'est de comprendre un texte ou de comprendre une personne qui parle. Surtout pour le français, je dirais. En allemand, c'est beaucoup plus simple pour l'allemand. Quand une personne parle allemand, les mots sont hachés, tandis qu'en français, il y a des liaisons partout. Les mots s'enchaînent, c'est un peu comme une musique,
oui,
comme une symphonie, et qu'il faut déchiffrer. Et c'est très difficile de déchiffrer quelqu'un qui parle en français à une rapidité énorme. Alors là, une chose importante que je dois préciser, c'est que cela ne veut pas dire que dans ces exercices de compréhension orale, les comédiens qui jouent les rôles parlent lentement, parce que ça serait tromper l'élève. Il ne faut pas le tromper, il faut lui présenter des enregistrements authentiques. Puisque ce sont des exercices. Bon, s'il ne comprend pas,
c'est ce que nous faisons actuellement.
Voilà, c'est ce que nous faisons actuellement. Si l'élève ne comprend pas, oui, c'est pas grave. Il est là pour apprendre.
Oui.
Si on proposait des exercices de compréhension orale qui soient facilement compréhensibles, ça ne sert à rien.
Oui.
Hein? Nous proposons des exercices avec ce qu'on appelle des Störfaktoren,
oui,
c'est-à-dire des enregistrements où il y a des bruitages, des bruits de rue, comme actuellement, là,
oui,
pendant que nous faisons l'interview, de manière à rendre la compréhension plus difficile. Il faut que la compréhension soit difficile. Hein? Oui. Voilà, ça c'est une chose qui a changé. Deuxième chose, les stratégies. Dans l'ancien Découverte, il y avait une page de stratégie par volume, donc par année. Maintenant, nous proposons une page de stratégie par leçon. En tout cas, une demi-page, oui, par leçon. C'est-à-dire que l'élève apprend chaque fois, dans chaque leçon, une stratégie nouvelle pour se débrouiller seul. Parce que le français, l'apprentissage, ça ne s'arrête pas à l'école. Ça continue le soir, à la maison, en écoutant des chansons, en écoutant la télévision éventuellement. Voilà. Et puis, troisièmement, on en a déjà parlé, le DELF. qui a pris des proportions gigantesques et astronomiques en Allemagne. Donc nous avons des exercices de préparation au DELF que nous n'avions pas dans l'ancien découvert.
Oui. Voilà. Merci. Alors voilà pour la grammaire, la conception, les structures, etc. Tous des termes un peu techniques aussi. Mais pour les élèves, ce qui les intéresse, y a-t-il, selon vous, des astuces pour mieux et plus rapidement trouver des solutions pour les exercices?
C'est de se procurer le livre de l'élève, de faire des copies.
Du professeur,
plutôt. Mais le livre du professeur, pardon. Mais bon, ça, c'est de la triche. C'est tricher.
Oui.
Donc, je crois que la meilleure manière de trouver les solutions aux exercices pour un élève, c'est de bien travailler jusqu'au bout toutes les stratégies.
Oui.
De se faire un planning de ses qualités, de ses défauts pour l'élève. C'est-à-dire, l'élève doit savoir où est-ce que j'ai des faiblesses en compréhension orale, est-ce que j'entends bien, est-ce que j'arrive à discerner
aussi les mots. C'est une façon aussi d'être honnête avec soi-même.
Voilà, tout à fait. Est-ce que j'ai des faiblesses?
De sentir si on possède le sujet vraiment.
Exactement. Et une fois qu'on a fait le bilan, où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis faible, c'est de travailler de manière très ciblée, gezielt, on dirait en allemand, très ciblée à ses faiblesses. C'est-à-dire, si j'ai des problèmes d'orthographe, il faut que je travaille l'orthographe.
Oui.
Et le reste a moins d'importance. Il faut équilibrer l'importance des exercices.
Alors, la vraie astuce, ce serait surtout de choisir la bonne stratégie personnelle.
Voilà, pour trouver la bonne cible. Oui. Parce qu'il ne faut pas tout faire. Hier, j'étais dans une école à Bonn, et la professeure me disait « Ah, je suis contente, j'ai tout fait, j'ai rempli le programme, j'ai terminé le livre. » Je lui dis « Mais ce n'est pas le but de terminer le livre.
Hein? » C'est pas le... Jamais.
Non, ce n'est pas non plus le but recherché.
C'est une sorte de guide, c'est une sorte de phare-plein.
Voilà, mais c'est une illusion de dire « J'ai terminé le livre, mes élèves sont parfaits. » Non, je pense que... outre le livre, il faut faire aussi d'autres choses, parce qu'il y a des formes d'enseignement très diverses. Il faut faire du théâtre, il faut faire de la musique, il faut faire des jeux, du travail Freiarbeit, par exemple, c'est très important.
Quelle sorte d'exercice préférez-vous?
Moi, personnellement?
Oui.
Ah, moi, je suis spécialiste, disons, je m'occupe plus particulièrement des exercices de compréhension orale.
Oui.
Des exercices de production orale, parce que la compréhension orale, ça englobe tout un tas de facultés. Je travaille aussi beaucoup avec les chansons, parce que je profite de ma propre expérience. Moi, j'ai appris l'allemand surtout en écoutant des chansons. Par exemple, à l'époque, c'était...
chansons, on en parlera encore.
Oui, par exemple de Frédéric May, etc. Oui. Et j'ai remarqué que par là, maintenant quand j'entends une expression dans la rue en Allemagne, je me dis « Ah, cette expression, je l'ai déjà entendue chez Reinhard May,
oui, c'est
Frédéric
joli.
May, il y a
c'est
25
joli.
Ans.
Voilà. » C'est joli, très bien. Où est-ce qu'on travaille les exercices avec le plus grand profit? Chez soi ou en cours?
Tout le temps. Tout le temps, chez soi et en cours, parce que l'enseignement, ça ne s'arrête pas. L'élève ne doit pas penser « Ah, maintenant j'ai une heure de cours de français, je fais du français, puis après je rentre à la maison et je m'occupe d'autre chose. » On peut continuer chez soi, à la maison, à travailler sans avoir l'impression de travailler, c'est ça que je veux dire. À la maison, il faut, par exemple, de temps en temps, au lieu d'écouter toujours Britney Spears ou je ne sais pas quoi, ou Tokyo Hotel, mettre de temps en temps un CD en français. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien. Mais ça, en même temps, il y a du français qui arrive là, dans les oreilles et dans le cerveau. Et c'est très important, ça.
C'est déjà une partie de la réponse à la question suivante.
Oui.
À partir des exercices, des manuels, quelles autres formes d'exercices recommandez-vous à vos lecteurs, aux élèves?
Voilà, alors il y a plusieurs, il y a par exemple le travail libre, c'est-à-dire les jeux, on peut faire des mots croisés en français. Moi personnellement, je plaide pour faire des exercices, enfin des exercices, disons pour travailler le français avec la chanson française, c'est très important. Par exemple, bien savoir scander les mots, les phrases, faire du rap ou du slam. Vous savez si vous connaissez le slam?
Oui,
Hein, c'est cette...
moi je ne peux pas,
Non, moi
mais.
non plus. Si, enfin, je peux. C'est une manière de scander les mots, c'est-à-dire de concevoir des textes de français comme des poèmes, mais des poèmes scandés, c'est-à-dire qu'on puisse les lire, d'être créatif. Ça aussi, c'est un exercice très important. Être capable d'écrire un texte en français, production écrite, mais surtout de le scander, de le dire à haute voix, c'est très important. Même si le texte est absurde, ça n'a aucune importance. Il faut que l'élève savoure les mots français comme il savoure un plat cuisiné français. Voilà. Ça doit être goûteux, ça doit
Oui,
être bon à prononcer
très
en
bien.
français. Voilà.
Vous recevez beaucoup de courriers?
Oui, énormément, beaucoup de courriels, beaucoup d'emails,
Oui.
beaucoup de lettres.
Par exemple, autour de quel sujet?
La plupart des élèves qui m'écrivent, ce sont des élèves qui me connaissent par l'ancien découverte. Alors, ils me
Oui.
posent des tas de questions sur la biographie et tout ça. Et je réponds personnellement à chaque courriel parce que je trouve que c'est important et que les élèves se réjouissent. Moi, quand j'étais élève, que j'apprenais l'allemand, j'aurais été émerveillé de recevoir une lettre ou un courriel d'un chanteur allemand, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé, malheureusement. Mais pour moi, ça aurait été le summum du bonheur de l'apprentissage de la langue allemande. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des tas de possibilités, de techniques, de la communication, etc. Donc je réponds à chaque élève qui fait l'effort de m'écrire même trois lignes, même
Oui,
deux lignes.
ils se plaignent parfois des exercices.
Non, jamais. Jamais.
Ils vous signalent des erreurs.
Oui, ça, oui. Il y a des élèves, par exemple, une anecdote très drôle. Une fois dans un manuel scolaire, il y avait la photo de la Terre, prise par satellite,
Oui.
la Terre vue du ciel.
Oui.
Et cette photo était à l'envers. Personne ne l'avait vue. L'Afrique était dans l'hémisphère nord. Et bon. Eh bien, c'est un élève qui l'a remarqué. Et j'ai trouvé ça merveilleux.
Magnifique. Ils écrivent aussi de la grammaire?
Parfois, bon, ils arrivent. Quelquefois, il arrive qu'ils se plaignent qu'un texte soit ennuyeux ou trop long, etc. Mais en général, ce qui compte, ce n'est pas que l'élève dise cette leçon est ennuyeuse. Ce qui compte pour nous, c'est que l'élève ait écrit quelques lignes en français. C'est ça le message important. Bien sûr, on tient compte, on dit bon, on a reçu une ou deux lettres sur telle leçon qui était un petit peu longue, alors on essaye de la fragmenter, ou on donne des conseils au professeur pour fragmenter cette leçon. Mais le message important, c'est les élèves ont fait l'effort d'écrire une lettre à une maison d'édition, en français en général, donc cet effort doit être récompensé. On leur envoie toujours des cadeaux d'ailleurs.
Magnifique. Vous m'avez dit pendant la préparation de notre interview de rappeler à nos auditeurs que vous avez déjà publié un CD.
Oui, c'est vrai, oui. Il faut faire un petit peu de publicité pour soi, n'est-ce pas?
Et on peut acheter le CD?
Oui, alors ce CD, on peut le commander. Et pour cela, il suffit de s'adresser à l'édition Fund, à notre label, puisque nous avons un label que vous connaissez très bien,
Oui,
cher
j'ai fait le
ami.
site internet.
Voilà. Ce label, c'est édition trait d'union Fund.
Oui.
Donc, pour trouver l'adresse de ce label, il suffit de taper dans l'internet www.édition trait d'union Fund, FANT. D'ailleurs, pourquoi Fund? Ça vient de éléphant.
Je sais pas d'éléphant, je
Si, je
sais
crois que
pas.
ça vient d'éléphant. Parce que le symbole, c'est un petit éléphant.
Oui.
Alors voilà, ça vient d'éléphant.
Oui.
Oui. Alors, oui, nous proposons donc à tous les auditeurs qui écoutent cette interview en ligne. Un petit jeu, c'est-à-dire que pour les 5 élèves qui nous enverront, les 5 premiers qui nous enverront un commentaire sur cette interview et sur le blog, hein, sur le blog, eh bien, ils recevront.
Pour cette note qui contient cette interview.
Voilà. Oui. Les 5 premiers élèves qui enverront un commentaire recevront.
Mais avec quelques phrases, pas seulement.
Ah oui.
Un peu musclé.
Un commentaire musclé, un commentaire fondé.
Oui.
Les 5 premiers, donc, recevront mon dernier CD qui s'appelle Gilles Fleuret chante 27. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, Aïna.
Merci. Au revoir.